France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Bismuth. Affaire dans l'affaire. Le dossier Bismuth est une histoire d'écoute téléphonique sur une possible corruption qui impliquerait l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. En pleine instruction sur un financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007, les enquêteurs chargés de surveiller les appels de Nicolas Sarkozy découvrent que ce dernier utilise une ligne téléphonique cachée avec son avocat et proche parmi les proches, Thierry Herzog. Rapidement, les enquêteurs sont témoins de ce qui a tout l'air d'être une nouvelle infraction pénale. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog auraient conclu ce que la justice appelle un pacte corruptif avec un certain Gilbert Azibert, un magistrat de la Cour de cassation. En échange de services rendus, l'ancien président aurait accepté d'appuyer la candidature du magistrat en question pour qu'il décroche un poste prestigieux à Monaco. Une révélation qui entraîne Nicolas Sarkozy dans une nouvelle procédure judiciaire et qui lui vaudra, quelques années plus tard, sa première condamnation à de la prison ferme. Notre invité aujourd'hui, Fabrice Arfi, journaliste et co-directeur du service enquête de Mediapart. Il est l'un des meilleurs connaisseurs de l'affaire Bismuth. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Mercredi 22 janvier 2014, Nanterre. Ce jour-là, une certaine effervescence envahit les couloirs de la police judiciaire parisienne. Une petite équipe d'une dizaine d'enquêteurs circule de bureau en bureau, trépignant d'impatience. Et pour cause, il finalise la mise en place d'une nouvelle cellule d'écoute téléphonique. La veille, le juge d'instruction Serge Tourneur a autorisé la mise sur écoute de deux numéros dits occultes que les enquêteurs soupçonnent d'être de la plus haute importance pour l'enquête qu'ils sont en train de mener. Dans le courant de la journée, les techniciens de la PJ confirment le bon fonctionnement des postes d'écoute. Bien, les lignes sont désormais branchées. Les policiers se mettent au travail et attendent patiemment, casque audio vissé sur les oreilles, que les deux suspects décrochent leur téléphone. C'est chose faite quelques heures plus tard. Et s'ils avaient encore un doute sur l'identité des personnes qui se cachent derrière ces lignes cachées, ils en ont désormais le cœur net. Les deux détenteurs de ces téléphones non déclarés sont bien l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et son avocat et ami de longue date Thierry Herzog. Grâce à cette mise sur écoute de ces lignes, les policiers espèrent faire avancer l'enquête qui les occupe déjà depuis plusieurs mois. Pourtant, c'est un autre dossier qui va émerger et plonger l'ancien président de la République dans un nouveau tourment judiciaire. Pour comprendre les ressorts de cette nouvelle affaire, et comme souvent, un coup d'œil dans le rétroviseur est nécessaire.
Plus que quelques secondes dans le palais de l'Élysée. À cet instant, Nicolas Sarkozy n'est déjà plus président et dans la cour, le personnel l'acclame. Lorsque sa voiture franchit les portes, des militants UMP sont là pour une dernière ovation.
On est triste.
Il était fort, il était bien, mais c'était trop court. C'était trop court.
Pendant ce temps, la voiture de l'ancien président roule désormais sans escorte et s'arrête au feu rouge. Pas un mot, juste un geste. Après un déjeuner à son domicile, Nicolas Sarkozy change de vêtements pour un jogging d'une demi-heure. Demain, il devrait s'envoler pour 15 jours de vacances au Maroc pour réfléchir aussi à la presse.
Défait par François Hollande au second tour de la présidentielle le 6 mai 2012, Nicolas Sarkozy quitte l'Élysée et le pouvoir 10 jours plus tard. Le désormais ex-président de la République entame sa nouvelle vie, loin de la politique comme il l'annonce lui-même au lendemain de sa défaite. Il dit vouloir consacrer son temps à sa famille, au voyage, à l'écriture de ses mémoires, aux affaires aussi. Si son statut d'ancien chef de l'État lui vaut de nombreuses sollicitations pour effectuer des conférences un peu partout dans le monde, Nicolas Sarkozy retourne également à ses premiers amours et réintègre le cabinet d'avocats fondé 25 ans plus tôt avec son associé et ami Arnaud Claude. Mais cette nouvelle vie de Nicolas Sarkozy est aussi marquée par les confrontations avec la justice. Alors qu'il n'a pas encore quitté l'Élysée, il se sait menacé dans au moins deux dossiers importants. Et si ceci concerne le financement de sa campagne présidentielle de 2007, remportée face à Ségolène Royal, les protagonistes ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier de ces litiges, en effet, est baptisé par la presse l'affaire Bettencourt, en référence à Liliane Bettencourt, milliardaire française, héritière du groupe L'Oréal. En juin 2010, le site d'actualité Mediapart publie des enregistrements secrets captés par le majordome de la femme la plus riche de France, qui font état de soupçons d'abus de faiblesse. À la suite de ces révélations, les langues se délient. Après le majordome, c'est la comptable de Liliane Bettencourt qui parle et qui évoque deux retraits occultes de 400 000 euros effectués en faveur de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. La procédure judiciaire, déclenchée en octobre 2010 dans la foulée des révélations de Mediapart, défraie la chronique. D'abord instruite à Nanterre, elle est relocalisée à Bordeaux par peur d'une politisation de l'affaire et pour permettre au nouveau juge de travailler loin du capharnaüm parisien. Le 8 février 2012, Éric Woerth est mis en examen. L'ancien trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy et ancien ministre du budget, débarqué après un déferlement médiatique, se retrouve dans l'œil du cyclone. Épargné jusque-là, Nicolas Sarkozy, lui, sait que le temps est compté avant qu'il ne se retrouve également face au juge. Et c'est chose faite le 22 novembre 2012. Moins de 6 mois après son départ de l'Élysée, il est entendu comme témoin assisté, un statut intermédiaire qui, selon lui et ses avocats, prouve qu'il n'a rien à se reprocher. Mais cela ne dure pas. Le 21 mars 2013, il est à son tour mis en examen dans le volet de l'affaire consacrée au financement illégal de partis politiques. Si le cas Bettencourt fait la une des médias, pollue la campagne de Sarkozy, une seconde affaire sulfureuse émerge le 12 mars 2012, quelques semaines seulement avant le premier tour de la présidentielle.
Info ou intox, c'est un article publié sur le net, sur le site de Mediapart. Il concerne une note sur un accord de la Libye pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Un financement qui s'élèverait à 50 millions d'euros, Sarah Guibaudot.
La lettre publiée par Mediapart date de décembre 2006. Elle est signée par Moussa Koussa, l'ancien chef du renseignement libyen, aujourd'hui en exil. Elle relate une réunion qui se serait tenue entre deux proches de Muammar Kadhafi et côté français, le ministre Brice Hortefeux et Ziad Takieddine. Ziad Takieddine affirme avoir joué un rôle de premier plan ces dernières années dans les relations avec la Libye. Mediapart lui a montré la lettre. Nous l'avons joint cet après-midi.
Est-ce que cette lettre est authentique ou pas ? La réponse est oui. Alors, la lettre prouve qu'il y a un accord qui aurait été trouvé pour le financement de 50 millions de Sarkozy. Ça, c'est vrai. Ça, la lettre le dit. Parce qu'elle a été écrite par les autorités, tamponnée. Franchement, je veux dire, on ne va pas commencer à inventer ça. Hein.
Là encore, il s'agit d'une affaire de financement présumée occulte de la campagne présidentielle de 2007. Mais on est loin des cercles des grandes fortunes françaises et des hôtels particuliers de l'Ouest parisien. Selon les révélations de Mediapart, en effet, ce serait cette fois de l'argent libyen qui aurait été promis à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, en vue du financement de sa future campagne électorale. D'abord accueillie avec prudence par les médias, l'information incite tout de même de nombreux observateurs à s'interroger sur le début du mandat de Nicolas Sarkozy, marqué, on s'en souvient, par l'intense polémique liée à la visite d'État à Paris de Muammar Kadhafi.
Pour Nicolas Sarkozy, c'est la fin d'une semaine difficile. On est loin des honneurs de la République lundi. Les ennuis du président ont pourtant déjà commencé au sein même de son gouvernement. Déclaration fracassante de Ramayad le matin. Absence de Bernard Kouchner le soir. La gauche est très critique. La droite, souvent embarrassée. Mais le plus dur reste à venir. Réception à l'hôtel de l'AC, pas à l'Assemblée. Le guide libyen s'en plaint. Sur 80 députés UMP invités, seuls 25 sont présents. Et les députés socialistes, eux, quittent l'hémicycle pour protester. Le président Kadhafi est agacé, mais le touriste Kadhafi, lui, s'en donne à cœur joie. Bateau-mouche, tour Eiffel, 30 minutes au Louvre, dont 3 devant Mona Lisa. Ces Amazones ont pu rêver. Le colonel est ce soir en Espagne, où il n'y a pas de polémique, pour l'instant.
Près de 5 ans plus tard, et face à cette information, celui qui est encore président de la République prend les devants et contre-attaque. Il annonce porter plainte contre Mediapart pour faux et usage de faux et entend tuer ainsi dans l'œuf cette nouvelle affaire qui pointe. En vain. Car en décembre 2012, Ziad Takedin, un sulfureux intermédiaire libanais proche des cercles de pouvoir à Paris, affirme devant un juge avoir joué un rôle de premier ordre dans les transferts d'argent libyen vers le clan Sarkozy. S'il met en cause l'influent Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée, il affirme aussi détenir des informations clés sur l'ancien chef de l'État. Le 19 avril 2013, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X. C'est le juge d'instruction Serge Tourneur et son collègue René Grumman qui sont aux manettes de cette nouvelle enquête. S'il n'est pas encore directement visé, Nicolas Sarkozy est concerné, moins d'un mois après sa mise en examen dans le dossier Bettencourt. Face à cette double tempête politico-médiatique, l'ancien président se montre, comme à son habitude, combatif. Sur le plan judiciaire, il use de toutes les voies de recours pour contester et ralentir les procédures. Dans l'affaire Bettencourt, il tente à plusieurs reprises de faire annuler l'instruction, en vain, là encore. Par voie de presse, lui ou son clan s'en prennent également à des magistrats qu'ils estiment politisés. Dans cette bataille contre la justice, Nicolas Sarkozy remporte quelques victoires. La première intervient le 7 octobre 2013. Après une longue enquête, les juges d'instruction de Bordeaux en charge de l'affaire Bettencourt rendent leurs conclusions.
France Inter.
Et pour commencer donc, cette information tombée il y a une demi-heure seulement. Elle concerne l'affaire Bettencourt. Franck Cognard, Nicolas Sarkozy vient de bénéficier d'un non-lieu.
Exactement, c'est-à-dire que les juges bordelais envoient une dizaine de personnes impliquées dans l'affaire Bettencourt devant le tribunal, sauf Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État avait été mis en examen pour abus de faiblesse parce que les magistrats le soupçonnaient alors d'avoir sciemment profité de l'état de santé défaillant de Liliane Bettencourt pour récupérer des enveloppes d'argent liquide en amont de sa campagne présidentielle de 2007. Mais si les juges ont des éléments factuels concernant l'ancien ministre Éric Woerth, renvoyé devant le tribunal, ou le photographe François-Marie Bannier, renvoyé lui aussi, ils n'ont qu'une simple concordance de rendez-vous pour impliquer Nicolas Sarkozy dans cet abus de faiblesse. Insuffisant, ça n'aurait jamais tenu devant un tribunal. Fin donc de l'affaire Bettencourt pour l'ancien président. Un souci judiciaire en moins pour lui.
Si les indices ont poussé les magistrats à mettre l'ancien chef de l'État en examen, les preuves, difficiles à établir dans les affaires d'abus de faiblesse, manquent cruellement pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. L'ancien président est donc blanchi. Malgré cette première victoire judiciaire, Nicolas Sarkozy sait que l'affaire Bettencourt n'est pas encore totalement derrière lui. Désormais, il souhaite récupérer ses agendas saisis lors de l'enquête. Il ne compte pas les laisser entre les mains de la justice, au risque de voir de nouveaux juges ou procureurs s'en saisir et les utiliser dans les autres affaires qui le menacent. Après une demande de restitution rejetée par la Cour d'appel de Bordeaux, Nicolas Sarkozy et ses avocats saisissent la Cour de cassation, la plus haute juridiction française. C'est donc elle qui va devoir trancher. Et c'est précisément cette décision qui va être au centre de l'attention de l'ancien président et de ses conseillers. C'est comme s'il sentait que cette affaire va plonger l'ancien président dans une nouvelle tempête judiciaire. Malgré tout, l'année 2013 se termine mieux qu'elle n'avait commencé pour Nicolas Sarkozy. Ragaillardi après avoir bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt, lui qui avait pourtant affirmé se retirer de la vie politique, ne cache plus vraiment ses intentions et prépare son retour au premier plan.
Nicolas Sarkozy ne manque pas un concert de son épouse et chaque fois il y retrouve ses propres fans. Un an et demi après son départ de l'Élysée, les spéculations sur son retour en politique reprennent de plus belle. À Paris, dans son QG de la rue de Miroménil, il multiplie les rendez-vous avec de jeunes élus. Officiellement, il n'y a pas d'accélération du calendrier, mais sa communication est millimétrée.
Il peut revenir.
Est-ce qu'il en a envie?
Je pense qu'il en a envie, mais il en a envie de manière comme une évidence. Ça fait partie de sa vie.
Celui que beaucoup voient comme le sauveur d'une droite explosée après les élections internes de l'UMP en 2012 n'a pourtant pas l'esprit complètement libre pour préparer sereinement son retour sur la scène politique. Et encore une fois, ce sont les affaires judiciaires qui planent sur lui qui l'inquiètent. Une préoccupation quotidienne qu'il ne partage qu'avec un cercle restreint de proches, au centre duquel se trouve un homme, Thierry Herzog. Et c'est lui qui va être au cœur de l'affaire Bismuth. Avocat et ami de l'ancien chef de l'État, il est l'homme de confiance. Depuis quelques mois d'ailleurs, il consacre la quasi-totalité de son temps à la défense de son célèbre client, acculé, visé par les affaires. Une relation privilégiée qui s'est nouée 30 ans plus tôt. Dans leur ouvrage « Le Parrain », paru en septembre 2023, les journalistes Laurent Valdiguier et Étienne Girard dressent le portrait de cet avocat.
Nicolas Sarkozy et mon Thierry, comme il a surnommé Thierry Herzog, se connaissent depuis les années 80. Ils ont un point commun. Ni l'un ni l'autre ne vient de ces grandes familles bourgeoises où l'on est avocat de père en fils. Autant Sarkozy a la politique dans le sang, autant Herzog a ce métier d'avocat dans les tripes. Il aime les nuits d'attente de délibérer dans les palais de justice de province, cette odeur de bois ciré des tribunaux correctionnels. Il aime les face-à-face tendus avec les juges d'instruction, les rendez-vous au parloir avec les clients difficiles. Il aime par-dessus tout sortir un client de détention sur un vice de procédure, emporter le morceau devant un jury d'assises après s'être énervé devant un procureur qu'il ira ensuite saluer. Ce métier-là est un sacerdoce, une passion, une vie.
Thierry Herzog est un pénaliste genre pointure. Après avoir fait ses armes auprès de ténors du barreau parisien, il devient à son tour un avocat reconnu. Défenseur de truands en tout genre, il met un pied en politique au début des années 2000 en participant à la défense des époux Tibéri lors de leur déboire avec la justice. Il devient ensuite l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy. L'amitié entre les deux hommes est sincère et la fidélité qui les lie est totale. Herzog voue une admiration sans bornes à Sarkozy et Sarkozy voit en Herzog le défenseur idéal. Un cogneur, toujours prêt à frapper fort et à suivre les stratégies de défense agressive de son client, comme lors de l'instruction du dossier Bettencourt, durant laquelle les coups ont plu de toutes parts. À l'automne 2013, cette relation entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog entre au cœur de l'instruction du dossier libyen. Persuadé que leurs échanges presque quotidiens peuvent apporter des éléments importants, le juge Tournaire, qui dirige l'enquête, décide de placer leur ligne personnelle sur écoute.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of you. Cause I'm always you. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I've tried.
Aujourd'hui, l'affaire Bismuth.
Affaire sensible sur France Inter.
À partir du mois de septembre 2013, les conversations sur les téléphones privés de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog sont donc surveillées par les enquêteurs de la police judiciaire chargés de l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Rien ne leur échappe. Les échanges sont passés au peigne fin et tous les éléments utiles pour étayer le dossier sont soigneusement relevés. Oui, mais voilà. Au fur et à mesure que le temps passe et que les conversations s'enchaînent, les policiers acquièrent une conviction. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog savent qu'ils sont surveillés. Au téléphone, et ce n'est pas hasard, ils se montrent extrêmement prudents et n'entrent que rarement dans le détail des dossiers importants. Dans les bureaux de la police judiciaire, on soupçonne même l'avocat et son client d'échanger sur des lignes cachées. À plusieurs reprises, il relève de courts échanges durant lesquels l'un demande à l'autre de le rappeler immédiatement sans que cela ne soit fait ensuite. Silence radio. Conclusion. Ils ont un autre canal de discussion. Mais pour l'heure, impossible de le tracer. Les enquêteurs sont patients. À un moment ou un autre, une erreur sera commise. Et de fait, le 11 janvier 2014, les événements s'accélèrent. Conformément à la procédure légale, le juge Tourneur renouvelle ce jour-là les autorisations de mise sur écoute des téléphones de Nicolas Sarkozy et de Thierry Herzog. Toujours selon la loi, et parce que les deux hommes sont avocats, le bâtonnier de Paris est informé de ce renouvellement. Coïncidence ou non, le jour même, Thierry Herzog semble prendre de nouvelles dispositions. Dans le podcast Code Source du journal du quotidien Le Parisien, le journaliste Timothée Boutry raconte la suite des événements.
Thierry Herzog va aller à Nice, là où il habite la moitié de l'année, pour acheter deux puces prépayées et des téléphones. On peut dire que ce sont des téléphones dédiés, puisqu'ils vont servir uniquement à l'échange entre les deux hommes. C'est des lignes qui vont être acquises sans document d'identité, et en fait c'est des lignes qu'on va dire occultes, quoi.
Thierry Herzog achète ses téléphones avec un faux nom, le nom de Paul Bismuth, presque par hasard.
Oui, alors en fait, c'est parce qu'il a reçu la veille, je crois, un mail de trombi.com, qui est un site qui vous rappelle à vos jeunes années de photos de classe, et Paul Bismuth, c'était un de ses condisciples. Et donc voilà, il a dû penser à ce nom-là, il a donné une identité qui était fausse, hein, puisque bon, le but c'était d'avoir des téléphones cachés, et comme il avait vu ce nom-là sur sa boîte mail, il a pensé à lui, donc voilà, c'était les fameuses lignes Bismuth.
Sans doute informé du renouvellement des écoutes, Thierry Herzog est bien décidé à garder ses nouvelles lignes secrètes. Pour y parvenir, la règle est claire et doit être suivie à la lettre. Ces téléphones ne doivent en aucun cas être utilisés pour passer des appels téléphoniques à d'autres personnes. C'est la condition pour garder l'anonymat. Thierry Herzog est consciencieux et respecte la règle. Mais Nicolas Sarkozy l'est moins et commet quelques écarts. Dans le courant du mois de janvier 2014, il appelle son ex-femme, Cecilia Attias, depuis son téléphone officiel. Comme lors de certains échanges avec Thierry Herzog, l'ancien président l'informe qu'il va la rappeler dans un instant. Et encore une fois, les enquêteurs constatent que ce n'est pas le cas. Mais en épluchant les relevés téléphoniques de l'ancienne première dame, il retrouve la trace d'un numéro inconnu enregistré au nom de Paul Bismuth. La suite est presque un jeu d'enfant. Les enquêteurs parviennent rapidement à remonter jusqu'à la seconde ligne, appartenant celle-ci à Thierry Herzog. Ainsi sont mises au jour les lignes occultes de l'ancien chef de l'État et de son avocat. Quelques jours seulement après leur mise en service, les téléphones sont à leur tour branchés et les conversations qui s'y tiennent sont méticuleusement écoutées. Les policiers ont désormais accès aux coulisses de la défense de Nicolas Sarkozy, comme derrière un miroir sans teint. Derrière leurs écrans, ils assistent en direct aux manigances des deux hommes pour tenter de déjouer la surveillance policière. Lors d'un échange, l'ancien président demande à son avocat de l'appeler sur sa ligne officielle pour qu'ils aient l'air d'avoir une conversation normale. Après s'être mis d'accord sur un sujet de discussion banal, il se rappelle, comme convenu, Un manège qui aurait pu fonctionner si les policiers n'avaient pas entendu la conversation précédente. Mais surtout, ils découvrent en cet hiver 2014 que la préoccupation principale de Nicolas Sarkozy et de Thierry Herzog n'est pas l'affaire libyenne, qui leur vaut pourtant d'être écoutée, mais bien l'audience à venir à la Cour de cassation concernant les agendas présidentiels saisis lors de l'instruction de l'affaire Bettencourt. Inquiet à l'idée de voir ces documents exploités pour d'autres affaires, peut-être, Nicolas Sarkozy s'impatiente. Durant les écoutes, les policiers relèvent aussi les nombreuses références à propos d'un certain Gilbert. L'homme dont parlent l'avocat et son client est Gilbert Azibert, un haut magistrat près la Cour de cassation. Dans les matins de France Culture, présenté par Guillaume Hermer, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, dresse le portrait de ce magistrat.
Le magistrat en question, c'est le magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Qui est-il ? Est-ce que vous pouvez nous présenter, Fabrice ?
Oui, Gilbert Azibert, c'est un haut fonctionnaire de la magistrature française, réputé proche des cercles de la droite judiciaire. Il a travaillé notamment au ministère de la Justice au service de Rachida Dati quand elle était la garde des Sceaux. Il est très proche, hein, y compris sur le terrain de l'amitié de Maître Herzog, l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy.
Très vite, les enquêteurs comprennent que Gilbert Azibert sert de relais au duo Sarkozy-Herzog au sein de la Cour de cassation. Même s'il est affecté à la chambre civile, ses connexions et ses liens avec les autres magistrats lui permettent de renseigner l'avocat de l'ancien président sur la procédure en cours au sein de la chambre criminelle. Alors que l'audience durant laquelle cette même cour doit statuer sur le sort des agendas présidentiels approche, Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog évoquent de plus en plus souvent les informations transmises par l'ami de l'avocat. L'ancien président est insistant et demande régulièrement de solliciter Gilbert sur telle ou telle question. Le 28 janvier, Thierry Herzog rend compte à Nicolas Sarkozy d'un échange qu'il vient d'avoir avec le magistrat. Selon lui, l'annulation de la saisie des agendas est en bonne voie. Dans le même échange, Thierry Herzog affirme que Gilbert Azibert a bossé, genre bien bossé. Donc le duo est optimiste, le vent va tourner en leur faveur. La teneur des conversations laisse penser aux enquêteurs que le magistrat, en plus de violer le secret de l'instruction, effectue un véritable travail de lobbying pour inciter certains de ses collègues à statuer en faveur d'une annulation de la saisie des agendas présidentiels. Si ces faits constituent déjà une infraction, les policiers vont bientôt découvrir un autre délit mettant cette fois directement en cause l'ancien président de la République. Le 5 février, en effet, les enquêteurs de la police judiciaire captent une nouvelle conversation sur la ligne occulte. Thierry Herzog appelle son client et lui fait part d'une demande de Gilbert Azibert.
Je viens d'avoir Gilbert, il est très optimiste. Il m'a parlé d'un truc à Monaco.
Il veut travailler à Monaco ?
Ah oui, parce qu'il va y avoir un poste qui se libère au Conseil d'État monégasque et il était bien placé. Mais simplement, il me dit, j'ose pas demander. Peut-être qu'il faudra que j'aie un coup de pouce. Alors je lui ai dit, mais tu rigoles avec tout ce que tu as fait.
Non, bah t'inquiète pas. Appelle-le aujourd'hui en disant que je m'en occuperai, parce que moi je vais à Monaco et je verrai le prince.
Le Conseil d'État monégasque, un poste prestigieux pour une fin de carrière dorée. Le magistrat a effectivement posé sa candidature quelques semaines plus tôt, mais il sent que l'opportunité est en train de lui échapper. Alors, un coup de main d'une personne bien placée pourrait le remettre dans la course. En acceptant de plaider la cause de Gilbert Azibert auprès des autorités du Rocher, Nicolas Sarkozy et son avocat viennent de conclure un pacte corruptif et les dés sont jetés. À l'écoute de cette conversation, les enquêteurs avertissent le juge Serge Tournaire. Pour celui qui instruit alors l'affaire libyenne, il ne fait aucun doute que les trois hommes viennent de commettre une nouvelle infraction. Le 17 février, il avertit le parquet national financier. Ce nouvel organe, créé en 2014 à la suite du scandale Cahuzac, le ministre du budget qui planquait son fric à l'étranger, est désormais chargé de traiter des affaires liées aux infractions financières et à la transparence de la vie publique. Convaincu par les éléments qui lui sont présentés, Eliane Houlette, la magistrate à la tête du PNF, décide de l'ouverture d'une nouvelle enquête. Et là, les choses s'accélèrent vraiment. Quelques jours plus tard, le 25 février, à 10h20 pour être précis, Nicolas Sarkozy, qui se trouve alors en vacances à Monaco, appelle son avocat. Il l'informe qu'il discutera le lendemain avec un haut responsable de la principauté à propos du poste convoité par Gilbert Azibert. Puis, silence radio. Les enquêteurs constatent, troublés, que les échanges s'interrompent subitement. Vers midi, Thierry Herzog achète un billet d'avion pour Nice où il atterrit dans l'après-midi. Il prend la route vers Monaco et dîne quelques heures plus tard en compagnie de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. Dès le lendemain matin, les lignes Bismuth sonnent à nouveau. Mais à l'écoute de la conversation, les policiers ont comme un doute. L'échange ne semble pas naturel, il paraît préparé. Nicolas Sarkozy, qui la veille disait vouloir plaider en faveur de Gilbert Azibert, annonce avoir renoncé. Il ne l'a pas senti, dit-il. Improbable retournement de situation. Dans la salle d'écoute, comme dans le bureau de la magistrate du parquet national financier, il ne fait aucun doute que la surveillance des lignes occultes a fuité la veille. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog savent maintenant qu'ils sont écoutés. Face à cette nouvelle, le parquet national financier n'attend pas pour réagir. Une information judiciaire est ouverte le 26 février 2014 et deux magistrates sont chargés de l'instruction de cette nouvelle affaire. Le 4 mars au petit matin, les domiciles et bureaux de Thierry Herzog et de Gilbert Azibert sont perquisitionnés. Et une nouvelle tempête s'abat sur le clan Sarkozy. Quelques jours seulement après les premières révélations d'une autre affaire qui risque de conduire l'ancien président face à la justice, Big Malion. Thierry Herzog et Gilbert Azibert sont mis en examen au mois de juin, puis le 1er juillet, c'est Nicolas Sarkozy qui est à son tour placé en garde à vue.
Bonjour. L'effet d'une bombe dans la nuit, au bout de la garde à vue, Nicolas Sarkozy, mis en examen, trafic d'influence et surtout corruption active. Son retour en politique est-il compromis ?
France Inter.
Il aura passé toute la journée en garde à vue à la PJ de Nanterre. En soi, c'est déjà une première pour un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est ensuite conduit chez les juges. Il est 2h du matin quand il sort, mis en examen pour recel de violation du secret professionnel, trafic d'influence et c'est un délit de plus sur la liste pour corruption active. Au-delà des écoutes, l'enquête et les auditions auraient donc apporté de nouveaux éléments. Nicolas Sarkozy soupçonné d'avoir en pleine affaire Bettencourt tenté d'obtenir des informations confidentielles. Ce n'est pas la première fois pour Nicolas Sarkozy. Il y a eu justement cette affaire Bettencourt et le non-lieu, mais ce sera peut-être celle de trop. À l'heure où son retour en politique agite toute la droite, le malaise grandit dans les rangs de l'UMP.
Comme à leur habitude, l'ancien chef de l'État et son ami de toujours adoptent une stratégie de défense agressive. Leur argument principal est selon eux l'absence pure et simple de corruption. Gilbert Azibert n'ayant jamais obtenu son poste à Monaco et Nicolas Sarkozy n'ayant jamais récupéré ses agendas présidentiels, l'affaire ne tient pas. Pourtant, et comme tout bon juriste le sait, l'intention de corruption suffit à qualifier le délit. Les deux prévenus usent bien sûr de toutes les voies de recours pour tenter de faire annuler les écoutes et la procédure. Suspendue durant près de 2 ans, l'instruction est finalement validée par une dizaine de magistrats de presque toutes les juridictions compétentes. Plus rien donc ne semble permettre d'éviter un procès. L'ordonnance de renvoi devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris est signée le 26 mars 2018. Malgré toutes leurs tentatives, les protagonistes de ce que les médias ont appelé l'affaire Bismuth vont finalement être jugés. La date du procès est fixée au 23 novembre 2020. Et pour la première fois, un ancien président de la République s'assoit sur le banc des accusés d'un tribunal correctionnel pour répondre de soupçons de corruption et de trafic d'influence. Et ses interventions dans la presse et ses nombreuses invectives à l'encontre de magistrats qu'il estime politisés n'y changent rien. Nicolas Sarkozy et ses coprévenus sont condamnés en première instance le 1er mars 2021. Ils écopent de 3 ans de prison, dont un en ferme. Thierry Herzog, lui, se voit interdit d'exercer la profession d'avocat pour une durée de 5 ans. Dans la foulée, les 3 condamnés font appel du jugement. Le second procès se tient en décembre 2022.
Nicolas Sarkozy, de nouveau condamné dans l'affaire Bismuth. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé la décision des juges de première instance. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Quels sont les arguments des magistrats ?
Outre la gravité des faits selon la Cour d'appel, celle-ci a insisté sur le statut d'ancien président de la République de Nicolas Sarkozy, dont il s'est servi pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel. Nicolas Sarkozy, qui est aussi avocat, après de longues études universitaires, peut-on encore lire dans les 156 pages d'arrêt, est donc à ce titre parfaitement conscient des infractions commises, au même titre d'ailleurs que ses co-accusés, à savoir la corruption et le trafic d'influence pour lesquels tous trois ont été reconnus coupables, portent lourdement atteinte à l'État de droit et à la sécurité juridique, et de ce fait exige une réponse pénale ferme, en l'occurrence 3 ans de prison dont d'un ferme, mais aussi 3 ans de privation des droits civiques.
Nicolas Sarkozy ne s'avoue toujours pas vaincu. Quelques minutes seulement après le verdict prononcé par la Cour d'appel de Paris, ses avocats annoncent qu'il se pourvoit en cassation. Combatif, l'ancien président se dit même prêt à se rendre devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là encore, il compte aller jusqu'au bout. Condamné en première instance, puis en appel dans l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy est présumé innocent dans l'attente d'un jugement définitif. Il reste pour l'heure, et néanmoins, le premier ancien chef de l'État français condamné à de la prison ferme dans une procédure criminelle. Et ce n'est pas fini. Dans les prochains mois et prochaines années, il va de nouveau faire face aux tribunaux. Dans l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, mais aussi pour le second procès de l'affaire Big Malion, dans laquelle il a été condamné en première instance à 1 an de prison ferme. Aujourd'hui, l'affaire Bismuth, notre invité Fabrice Arfi. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste et co-directeur du service enquête de Mediapart. Vous connaissez bien cette affaire. Alors, avec Nicolas Sarkozy, il faut toujours sortir l'agenda. Hein, on va commencer par là. On l'a dit en fin de récit, Nicolas Sarkozy et ses co-condamnés ont annoncé ce pourvoir en cassation. Quand devrait se tenir le procès? Et puis, quelle issue peut-on imaginer?
Alors, en fait, il y a eu un petit événement juridique ces dernières semaines, puisque se glissant dans une contestation de son ancien Premier ministre, François Fillon, lui aussi condamné dans une affaire d'atteinte à la probité devant le Conseil constitutionnel a fait tomber un vice de forme qui existait d'après le Conseil constitutionnel et dans le dossier Fillon et dans le dossier Bismuth de Monsieur Sarkozy. Et donc, il est possible que l'affaire soit renvoyée pour un éventuel troisième procès où on va demander de rejuger l'affaire Bismuth eu égard à ce pur vice de forme qui a été pointé par le Conseil constitutionnel. Et Nicolas Sarkozy sera par ailleurs jugé en novembre en appel dans l'affaire Big Malion, ça c'est le financement de sa campagne de 2012, et il sera jugé avec 13 autres personnes, dont 3 anciens ministres, hein, messieurs Woerth, messieurs Hortefeux et Guéant, dans l'affaire du financement libyen. Ça, ce sera pendant au moins 4 mois, début 2025.
Alors, Nicolas Sarkozy est une spécialité, la martyrologie. On va l'écouter sur le fait notamment d'avoir été jugé par des juges politisés, clairement opposés à lui. Il le dit, il le répète, on l'écoute.
Est-il normal que je sois placé en garde à vue pendant 15 heures, sous la surveillance d'ailleurs de policiers qui ont fait remarquablement leur travail, à qui, bien sûr, je n'ai rien à reprocher? Mais ne pouvait-on pas me convoquer pour que je réponde aux questions des juges? Devais-je absolument avoir rendez-vous avec les 2 dames qui m'ont donné rendez-vous à 2h du matin cette nuit, après 14 heures d'interrogatoire par les policiers? Est-il normal d'être traité comme ça?
Bon, les 2 dames sont des juges, hein.
Oui, les 2 juges, Patricia Simon et Claire Thépeau, oui. Ils ont une identité, ces 2 dames.
Et la stratégie de Nicolas Sarkozy, elle est toujours là, dans ce que j'appelais un peu ironiquement la martyrologie.
Oui, mais c'est du populisme judiciaire, comme le font beaucoup de responsables politiques qui sont pris dans les filets de la justice, ne comprenant pas au fond qu'il y a des lois qui sont votées pas par les juges, pas par les policiers, par les procureurs, mais par le législateur. Et que si on estime que, par exemple, la corruption, bah, c'est un délit passible de 10 ans de prison, et qu'il y a des leviers pour mener des enquêtes parmi lesquels des écoutes téléphoniques, des gardes à vue, des perquisitions, bah, évidemment, ça peut aussi s'appliquer à ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Et ça, c'est un grand classique, parce que il a le pouvoir de la parole, Nicolas Sarkozy. Il a le pouvoir de la communication, sa surface médiatique est gigantesque. Ce sont des questions qu'on qu'on ne se poserait pas pour d'autres formes de délits. Est-ce qu'on dirait d'un braqueur, vous vous rendez compte, il a été placé en garde à vue, il a été placé, il a été mis sur écoute, etc. Bon, ben voilà. En fait, il y a des policiers, il y a des procureurs et des juges d'instruction qui essayent de faire leur travail et d'appliquer la loi. D'ailleurs, il dit dans l'interview que vous voulez de diffuser, je n'ai rien à leur reprocher aux policiers, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il les a comparés à la Stasi. Il les a comparés à la Stasi est-allemande, une effroyable dictature. Dans une tribune qu'il avait donnée au Figaro. Donc, bien sûr qu'il a voué aux gémonies tous ceux qui ont enquêté sur lui.
Oui, et les leviers que la police et la justice peuvent actionner, elles l'actionnent pour tout le monde, ça s'appelle l'état de droit.
Et l'égalité devant la loi.
Absolument. On va revenir un peu en arrière dans cette histoire, s'arrêter sur un instant sur l'enjeu des agendas présidentiels. Parce qu'au début, il y a ça. Et l'obsession de Nicolas Sarkozy, c'est « mais que je les récupère ». Mais pour quelle raison c'était aussi important? On comprend hein, que des agendas personnels, c'est compliqué déjà. Présidentiels, ça doit être un peu compliqué, mais enfin bon... C'est quoi l'enjeu?
En fait, l'enjeu, c'est qu'on ne découvre pas qui il voit à quel moment, à l'aune d'autres soupçons judiciaires. Ah oui. Parce que ces agendas avaient été, comme vous l'avez très bien raconté, saisis dans le cadre de l'affaire Bettencourt, et en partie exploités, par exemple, dans le cadre de l'affaire Tapie. Et donc là, on a...
Tapie Crédit Lyonnais.
Tapie Crédit Lyonnais.
Il y en a beaucoup aussi.
Oui, il y a beaucoup d'affaires Tapie aussi. Et là, on a découvert qu'il y avait des interactions à la lumière de ces agendas qui ont intéressé les juges d'instruction. Et de la même manière, soustraire ces agendas à la curiosité judiciaire, c'était peut-être mettre des embûches dans un autre dossier dont on a parlé, qui est l'affaire libyenne. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces agendas, il a fini par les récupérer. Et à un moment donné, quand il est mis en examen pour association de malfaiteurs en octobre 2020 dans l'affaire libyenne, il y a la juge d'instruction, Aude Burizi, qui l'interroge sur un rendez-vous qu'il a pu avoir avec un agent de corruption présumé, qui est le fameux Yatakedine, à une date précise en janvier 2007. Nicolas Sarkozy dit, ce rendez-vous, je n'y étais pas, et d'ailleurs, j'ai mes agendas, que j'ai récupérés, hein, les fameux agendas, et je vais vous les amener pour vous prouver que ce rendez-vous n'a pas lieu. Et quelques jours sont passés, la juge a écrit à l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, en disant, bon, bah, vous pouvez me les donner, ces fameux agendas, pour qu'on vérifie si ce rendez-vous a lieu ou pas. Et Thierry Herzog a dit, Nicolas Sarkozy a perdu ses agendas. Ces fameux agendas qu'il s'est tant battu pour les récupérer dans l'affaire Bettencourt, il les a perdus dans l'affaire libyenne.
Et quand il dit, son avocat dit, vous voyez, il n'y a pas corruption, parce que les agendas, finalement, ils sont revenus. Là, il oublie qu'il y a l'intention dans
Saint-Denis. Même...
Il y a l'intention de corruption.
Là, c'est formidable, parce que là, c'est encore la puissance médiatique du clan Sarkozy et de ses avocats d'avoir réussi à imposer dans un certain nombre de médias un narratif autour de l'affaire Bismuth, qui est en fait une affaire extrêmement simple. On a d'un côté un haut magistrat de la Cour de cassation qui donne des informations secrètes à une partie à un procès, à savoir Nicolas Sarkozy. En contrepartie, Nicolas Sarkozy lui promet de l'aider. Il lui promet
une mutation.
Donc c'est-à-dire pour un poste au soleil, comme vous l'avez raconté à Monaco. Le pacte de corruption, il se noue à ce moment-là, oui. Puisque les informations ont bien été transmises et Nicolas Sarkozy a promis de l'aider. Qu'il l'ait aidé finalement ou pas, ça change strictement rien au pacte de corruption, d'après les juges de
c'est l'intention et les juges.
Ah ben c'est même. En fait c'est l'intention, c'est en fait c'est la promesse. La corruption là c'est la promesse.
Ouais, c'est-à-dire
tu me donnes des informations, je promets de t'aider. Après que il ait passé une nuit et qu'il se dise finalement je veux pas l'aider ou qu'il était informé qu'il était sur écoute une deuxième fois et qu'ils se disent bon bah vaut mieux ne pas l'aider. En fait, ça ne change strictement rien du point de vue du droit pour les magistrats au regard de ce qu'est la définition par le législateur d'un pacte de corruption.
Fabrice Arfi, revenons ou plutôt abordons un point que nous n'avons pas vraiment eu le temps d'aborder dans le récit, le sujet d'une potentielle taupe dans cette histoire. À deux reprises, les enquêteurs soupçonnent le clan Sarkozy d'avoir bénéficié d'informations sur la prolongation des écoutes des lignes officielles, mais aussi de la découverte des lignes Bismuth. Qu'est-ce qui fait dire aux enquêteurs ou aux autres que Nicolas Sarkozy et son avocat ont été renseignés de l'intérieur?
En fait, il n'y a pas tellement du doute du point de vue des enquêteurs et des magistrats, qu'ils soient juges d'instruction ou procureurs au PNF, qu'il y avait une taupe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... il y a eu des actes de renouvellement des écoutes ou des informations qui ont fuité en dehors du petit cercle minuscule de gens qui étaient en courant, l'attitude de messieurs Sarkozy et Herzog a changé. Soit que Lendemain de renouvellement d'écoute, et ça passe par l'ordre des avocats, parce que vous l'avez très bien raconté, comme ils sont avocats, il faut que l'ordre des avocats de Paris soit averti.
Les bâtonniers aussi.
Là, dès le lendemain, donc concordance chronologique quand même incroyable, Thierry Herzog va acheter les fameuses lignes occultes, comme le font parfois des trafiquants de stupes, ce qu'on appelle des lignes dédiées, comme l'a bien dit mon confrère Timothée Boutry du Parisien, qui sont les fameuses lignes bismuth dans lesquelles il pense opérer tranquillement avant d'être découvert par les enquêteurs. Et puis, quand il y a l'ouverture d'informations judiciaires, l'ouverture de la nouvelle enquête et la découverte des nouveaux délits présumés, à savoir le pacte de corruption dont nous parlons. Là, du jour au lendemain, la nature des conversations entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy change aussi.
Elle devient banale.
Quand la veille, il était à fond, pardonnez-moi l'expression, Nicolas Sarkozy, pour aider le magistrat qui lui avait donné des informations secrètes, subitement, il s'est dit non, finalement, je vais pas le faire, comme pour éteindre le soupçon. Mm-hmm. Et donc, il y a la certitude qu'il y a une taupe du point de vue du soupçon judiciaire, et c'est pourquoi il y a une enquête parallèle qui va être ouverte pour essayer de trouver la taupe. L'identité de cette personne n'a jamais été découverte. Et les avocats de Nicolas Sarkozy en ont déduit, c'est qu'il n'y a pas de taupe. Mais non, c'est pas parce qu'on n'a pas identifié l'auteur d'un délit présumé que le délit n'existe pas ou que la taupe n'existe pas.
De toute façon, la taupe a vocation à se cacher.
Ah bah absolument, c'est bon. Même le principe d'une taupe, c'est que ça vit sous terre.
Bon. Alors, l'argument des écoutes soi-disant illégales, l'argument de défense. Bon.
Mais le problème, c'est que ça a été jugé, rejugé, surjugé. Ben, elles ne sont pas illégales, ce sont des écoutes judiciaires qui ont été validées à tous les échelons de l'ordre judiciaire jusque devant la Cour de cassation. Et alors, autre argument qui a été déployé, de dire, mais en fait, c'est dégueulasse d'utiliser des filets dérivants. Nicolas Sarkozy est écouté dans l'affaire des financements libyens, et à force d'être écouté, on lui découvre un nouveau délit, c'est ce qui va donner l'affaire Bismuth. Mais là, c'est pareil, on ne se pose jamais cette question pour une autre forme de délinquance. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez qu'on enquête sur des braqueurs, des gens qu'on soupçonne d'être des braqueurs. Ils sont écoutés, et on découvre dans les écoutes qu'en plus des soupçons de braquage, ils s'adonnent à un trafic de stupéfiants. Personne va reprocher à la police d'ouvrir une enquête sur le trafic de stupéfiants.
Ce serait le contraire.
Voilà. Bien sûr, ce serait l'inverse. Okay. Mais pour cette délinquance-là, le problème, c'est toujours la justice.
Bien, Fabrice Arfi, je tiens à rappeler l'existence d'une super série d'argent et de sang. Mais oui, la remarquable série de Xavier Giannoli, actuellement sur Canal+, est tirée de votre enquête, Fabrice Arfi, enquête éponyme d'ailleurs, sur la gigantesque arnaque à la taxe carbone, et votre livre qui en parle a été réédité chez Point Seuil, c'est bien ça ?
Absolument.
Bon, parfait, il me reste à vous remercier.
Merci à vous.
À bientôt.